L'entraînement pour vivre une vie stratégique vous présente aujourd'hui la série « Surmonter les blessures de la vie et découvrir la joie de vivre une vie stratégique » par Dennis Peacock. Traduction Meia Cortet. Le sixième principe s'intitule « Être un dirigeant ». Dans cet enseignement, nous voyons que Dieu nous donne la vie afin que nous apprenions à gérer, gouverner, diriger, juger, régner. Oui, la vie t'est donnée pour que tu apprennes à devenir et à être responsable, que tu deviennes un dirigeant. Romains 8, 15 dit « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse à nouveau de peur, mais c'est l'esprit qui fait de vous des fils et des filles de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu « Mon Père, Abba Père ». Et l'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Ces textes nous disent que nous sommes appelés à gouverner avec le Christ, donc de gérer avec Jésus-Christ ce que le Père lui a confié et veut nous confier. 1 Corinthiens 6, 1 à 5 dit « Quand l'un de vous a un conflit avec un frère, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s'adresser aux membres du peuple de Dieu? Ne savez-vous pas que les membres du peuple de Dieu jugeront le monde? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapable de juger des affaires de peu d'importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? À plus forte raison les affaires de cette vie. Or, quand vous avez des conflits pour des affaires de ce genre, vous allez prendre comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'Église. Je vous le dis pour votre honte, il y a sûrement parmi vous au moins un homme sage qui soit capable de régler un conflit entre frères. » Paul nous dit ici que l'Église, le corps de Christ, va réellement un jour juger le monde et les anges. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares à juger équitablement? Apocalypse 2, 26-27 dit « À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront continué à pratiquer jusqu'à la fin ce que je veux, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père, je leur donnerai le pouvoir sur les nations, ils les dirigeront avec une autorité de fer et les briseront comme des pots d'argile. » Est-ce que vous comprenez clairement ce qui nous est dit, ce que Jésus nous dit? Nous allons, l'Église de Jésus-Christ va juger le monde. Voilà ce que l'Écriture sainte nous dit. Jésus dit, « Le Père m'a donné cette autorité et je vais la partager avec vous. » Nous avons tous, une fois ou l'autre, lu les derniers chapitres de la Bible. Nous connaissons Apocalypse 22. Nous savons donc que les nations vont exister pour toujours. À ce sujet, je veux souligner que nous chantons parfois des chants intéressants. Il y en a un en particulier aux États-Unis qui dit ce qui suit. « La terre n'est pas ma maison, je suis juste de passage. » Réalisez-vous que ceci n'est pas la vérité? Nous devrions plutôt chanter « Le ciel n'est pas ma maison, je n'y serai que de passage. » Car la Bible nous enseigne qu'à la fin des temps, nous reviendrons sur une nouvelle terre et que nous dirigerons, nous régnerons pour toujours. Le psaume 115 verset 16 dit « Les cieux appartiennent à l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. » La terre appartient aux hommes. C'est notre lieu, notre foyer et nous devrons gérer, diriger la terre. Nous allons gouverner les nations et nous allons travailler à la guérison des nations. Il y a un fleuve qui sort du trône de Dieu. Il y a un arbre dont le feuillage va servir à la guérison des nations. Où sont les disciples, les chrétiens qui apprennent aujourd'hui à diriger, à gérer, gouverner, juger, de manière à pouvoir le faire ce jour-là? Bon, la vérité spirituelle que nous devons reconnaître et maîtriser est la suivante. Dieu nous a appelés à diriger, gouverner et juger. Pour cela, nous devons bien sûr d'abord apprendre à obéir à Dieu. Puis nous devons apprendre à avoir la perspective de Dieu. Et enfin, nous devons renoncer à la crainte des hommes. Comment devons-nous apprendre à vivre à pratiquer ce principe. Si ce ne sont pas des acquis pour nous, nous allons nous permettre d'être désobéissants. Nous allons nous trouver des excuses, tolérer des choses pour nous-mêmes ou dans la vie des autres qui ne glorifient pas Dieu. Il me semble que nous jouons tous une sorte de jeu. Nous sommes comme dans un grand complot. Je m'explique. Voilà comment cela se passe. On se met d'accord les uns avec les autres en disant « Je ne te dis pas ce que je vois en toi, si toi tu ne me dis pas ce que tu vois en moi, de faux, de mal, qui devrait être transformé. » Le plus souvent, quand des personnes nous disent clairement ce qui se passe en nous, nous choisissons de refuser d'y regarder de plus près. Nous choisissons de nous détourner de ces personnes. La raison pour laquelle nous jouons ce jeu-là, c'est parce que nous ne voulons pas être jugés ou parce que nous avons peur d'être évalués par d'autres. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur. Alors, nous jouons au jeu de la tolérance dont voici les règles. Je ne vais pas considérer que tu dois me rendre des comptes si de ton côté, tu ne me demandes pas non plus de te rendre des comptes sur la gestion de ma vie personnelle. À ce jeu-là, nous sommes très forts, nous, Église, malheureusement. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que le monde ne veut pas jouer à ce jeu-là avec nous, Église. Le monde nous dit, « Si tu veux vraiment me juger un jour, alors laisse-moi d'abord remettre en question ce que tu vis aujourd'hui, toi-même. » Malheureusement, ne sommes-nous pas encore prêts à jouer au jeu de la vérité avec le monde. Et nous restons, pour le moment, chacun sur notre position. Matthieu 7, 1 dit « Ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas. » Et la plupart des croyants oublient de lire les quatre versets qui suivent. Combien d'entre vous savent que le plus souvent nous lisons ou disons juste quelques versets qui nous arrangent pour nous trouver des excuses et ne pas faire ce que nous sommes appelés à faire? Nous reparlerons de cela dans un moment. Comment pratiquons-nous la vérité? A. En demandant chaque jour à l'Esprit-Saint de faire la lumière sur, par exemple, la crainte des hommes en nous. Ceci afin que nous puissions y renoncer en demandant au Saint-Esprit de nous montrer dans quel domaine nous avons toléré un péché, afin d'y renoncer. B. En demandant à l'Esprit-Saint d'enlever la poutre qui est dans notre œil d'abord, ce qui nous permettra de tenir le miroir de Dieu devant ceux qui nous entourent et de les servir avec amour. C. En exerçant le jugement dans les limites des responsabilités que l'Éternel Dieu nous a accordées. Dans 2 Corinthiens 10, Paul nous dit comment il exerce sa responsabilité, comment il exerce le jugement, c'est-à-dire uniquement dans les limites que Dieu lui a imparties. Connais-tu les limites de tes responsabilités? Parce que les limites de tes responsabilités, prenons une image, c'est comme un jardin que Dieu te donne à gérer. Dans ce domaine, tu es responsable de rendre des comptes à Dieu. Tu n'es bien sûr pas appelé à gérer mon jardin, ni moi appelé à gérer ton jardin. Mais chacun de nous, nous sommes responsables devant Dieu et nous devrons rendre des comptes à Dieu sur la manière dont nous aurons géré notre jardin. Mon principe du vendredi est le suivant. Je peux apprendre à régner, gérer, gouverner, juger, diriger, en servant Dieu. L'engagement que je prends le vendredi est le suivant. Père, je m'engage à marcher dans la crainte de ton nom. Je m'engage à apprendre à juger de manière juste, selon ta parole et ton Esprit Saint. Genèse 2, 26 à 28 dit « L'homme a reçu la responsabilité de gérer toute la terre. » C'est le mandat de domination que l'homme a reçu de la part de Dieu. L'Éternel Dieu n'a pas retiré ce mandat à l'homme. D'accord? Donc, la terre est non le ciel, est le lieu où nous devons apprendre à gérer et à gouverner. Nous l'avons lu tout à l'heure. Matthieu 16, 19, psaume 82, psaume 94, 16, disent la même chose. Il y a de plus en plus de personnes qui font partie de groupes d'intercession. Elles entrent dans la bataille spirituelle que Dieu leur demande de mener. Je vous rappelle que Matthieu 16, 19 dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous libérez sur la terre sera libéré dans les cieux. Nous n'avons aucune autorité dans les cieux. Notre autorité est sur la terre, parce que nous avons reçu la responsabilité de la gérer. Il n'est jamais dit que nous pouvons lier quoi que ce soit dans les cieux. Jésus nous dit « Vous liez sur la terre et je lie dans les cieux. Vous libérez sur la terre et je libère dans les cieux. » D'accord ? Je ne sais pas où les chrétiens vont prendre la pensée qu'ils ont une autorité dans les cieux. Le ciel, c'est la sphère de responsabilité de Jésus, et la terre est notre sphère de responsabilité. Ce thème est abordé dans le psaume 110, quand le Père dit au Fils, « Viens siéger à ma droite et règne en présence de tes ennemis. » Le Père dit encore au Christ, « Étends ton sceptre sur la terre. » Qui est le sceptre de Jésus-Christ sur la terre ? L'Église. Il dit donc à l'Église, « Dirige, gouverne, juge et règne sur toute la terre. » Alors pourquoi tant de croyants attendent-ils impatiemment d'être enlevés ? Ah, je crois que beaucoup sont insatisfaits. Ils ne sont pas très heureux de vivre ici, à la place que Dieu leur a donnée. B. Ils ne veulent pas de responsabilité. Ils ne veulent pas apprendre à diriger, à gérer, à juger comme Dieu le veut. Nous voulons que Jésus gouverne à notre place, qu'il fasse de nous des petits robots à qui il dirait « Viens ici, va là-bas, et moi je ferai le reste. » On nomme cela de la fuite devant les responsabilités. Voyez-vous, c'est pour cette raison que j'ai dit, lors de ma rencontre avec Dieu, « Jésus ne fait pas de moi un chrétien. » Car je ne vois pas beaucoup de chrétiens qui veulent prendre des responsabilités sous l'autorité souveraine de Dieu. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Et, gloire à Dieu, je vois de grands changements se produire. Quand je suis venu à Dieu, on était en plein milieu du mouvement des droits civiques. À ce moment-là, la plupart des chrétiens blancs, aux États-Unis, ne s'intéressaient absolument pas à la question des droits des Noirs. Comme la plus grande partie de l'Église de Jésus-Christ ne s'intéresse pas, aujourd'hui, aux questions de l'avortement, de la pornographie. La communauté des croyants ne s'intéresse pas assez, ne se préoccupe pas assez de la question des abus d'enfants ou des questions d'injustice, sauf si ça les concerne personnellement. Alors là, ils commencent à s'y intéresser, à s'en préoccuper. Nous devons le dire, depuis des années, c'est le monde qui s'occupe de ces questions-là. Et ceci est absolument faux. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dans un psaume, nous entendons Dieu poser la question suivante. Qui va se tenir devant moi pour la justice? Encore aujourd'hui, le corps de Christ trop souvent ne veut pas se lever pour apprendre à gouverner. Nous voulons bien rester en sécurité entre nos quatre murs. Et puis avant de partir un jour au ciel, nous voulons bien louer Dieu. Nous voulons bien écouter de bonnes études bibliques. Nous voulons bien essayer de nous aimer les uns les autres, et pendant ce temps-là, laisser le monde aller en enfer. Parce que nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à prendre nos responsabilités pour diriger, gérer et juger selon la volonté de Dieu. Qui est responsable de juger le monde ? Paul vient de nous le dire, l'Église. Jésus nous l'a dit. Si vous voulez apprendre, si vous voulez vous former pour gouverner, dit-il, je vais vous donner les nations comme héritage. Une des raisons pour lesquelles nous donnons cet enseignement, cet entraînement, et offrons des cours aux hommes d'affaires qui veulent travailler selon la Bible, c'est que l'économie et la politique sont des points sensibles par le biais desquels nous pouvons comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Malheureusement, nous sommes encore trop souvent les derniers à réaliser que ce sont là des points sensibles qui nous révèlent ce que le monde vit maintenant. Jésus lui-même a dit « Les enfants de ce monde sont souvent plus sages et voient les choses mieux que mes enfants. » Où sont les économistes, les hommes d'affaires chrétiens? Si l'économie est appelée à conduire l'avenir de l'Europe, pourquoi l'Église ne dirige-t-elle pas l'économie? Parce que nous n'avons pas le courage de sortir des rangs et de diriger. C'est là une maladie dans l'Église. Nous sommes souvent les derniers avertis et les derniers conscients, les derniers prêts à nous former. Pour ma part, je ne crois pas que Jésus-Christ va revenir ces jours prochains. Parce que je ne crois pas que Jésus-Christ va revenir pour une fiancée immature. Apocalypse 19 dit que la fiancée, la future épouse, s'est préparée. Quand je verrai l'épouse de Jésus-Christ se préparer pour la venue de Christ, pas pour être enlevée avant la cata finale, alors je commencerai à l'attendre d'un instant à l'autre. La plupart d'entre nous ne veulent pas se préparer, ils veulent simplement être confortablement installés. Le fait de gérer, gouverner, juger, régner, diriger, exige de la discipline, de l'entraînement. Cela exige que nous soyons parvenus à maturité. Nous ne pouvons pas nous permettre de tourner en rond et espérer gouverner en même temps. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans les blessures et les souffrances de notre vie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être endormis et gouverner en même temps. Nous en voyons les conséquences aujourd'hui et cela ne peut pas durer. Afin de gouverner de manière juste, nous devons exercer le jugement selon la parole de Dieu et selon l'Esprit, et pas selon nous-mêmes. C'est pourquoi il est important d'étudier la parole de Dieu, toujours et encore. C'est pourquoi il est important d'acquérir une vision biblique du monde. Je veux vous rappeler que les rois, en Israël, devaient écrire eux-mêmes la loi à la main. Ils devaient aussi la lire tous les jours. Ils ne pouvaient pas simplement se procurer la loi qui avait été écrite par le roi précédent. Mais ils devaient l'écrire eux-mêmes et la pratiquer eux-mêmes. Ils devaient l'étudier tous les jours. Puis ils devaient prendre les décisions en se fondant sur les lois, ces lois qu'ils avaient eux-mêmes copiées à la main, les lois de Dieu. J'aimerais vous dire aussi, sans entrer dans tous les détails, je sais que je suis libre par rapport à la loi. Je sais qu'en Jésus-Christ, je suis sauvé. Je le comprends. Mais au moment où je veux pouvoir gouverner, je dois revenir à la loi. C'est elle qui va me donner les préceptes justes et les principes de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'Église est sous la loi aujourd'hui? La réponse est non. Une autre question. Est-ce que le monde est aujourd'hui encore sous la loi? La réponse est oui. Paul nous dit que le monde est toujours sous la loi. La loi est bonne lorsqu'elle est utilisée de manière juste, mais elle n'est pas pour l'Église, elle est pour le monde. Si nous nous intéressons à la politique, ne nous appuyons pas sur les raisons humaines, ni sur les fondements humains, mais faisons de la politique en nous fondant sur les principes bibliques, les principes et la loi de Dieu. Galates 3, 24 dit que la loi nous enseigne les principes de base. Si je relis régulièrement les psaumes, les proverbes et Deutéronome, c'est parce que je retrouve là vraiment les bases pour apprendre à gouverner. Est-ce que tu es en train de t'entraîner et d'entraîner tes enfants, si tu en as, à gouverner? Ma femme enseigne beaucoup dans ce domaine et nous avons enseigné nos enfants. Nous ne faisons pas simplement des théories. Est-ce que tu enseignes tes enfants afin qu'ils fassent ce qui convient? Ou est-ce que tu les entraînes à gérer, gouverner selon Dieu? Est-ce que tu apprends à régner, gouverner avec tes enfants? Le but d'un bon gouvernement n'est pas que les gens obéissent. Le but, c'est que les gens croissent. Je répète, le but d'un bon gouvernement n'est pas que les gens obéissent. Le but d'un bon gouvernement, c'est que les gens croissent. Est-ce que les personnes qui sont sous ton autorité croissent? Je te dis que tu ne dois pas contrôler les gens. Je te dis que tu dois apprendre à gérer leur croissance. C'est très différent. En tant qu'enfants de Dieu et disciples, nous devons apprendre à avoir une bonne maîtrise de nous-mêmes, dans notre famille, dans l'Église et dans la sphère de notre mandat, qui est de faire des nations des disciples. Nous avons déjà dit que le pouvoir est gardé par des problèmes. Chaque fois que vous résolvez un ou des problèmes, Dieu vous accorde plus d'autorité. Alors pourquoi ne voulons-nous pas gouverner, juger, diriger? Nous ne voulons pas gouverner parce que nous comprenons intuitivement que plus nous gouvernons, plus nous recevons de responsabilités. Nous pensons que le jour où nous nous sommes convertis, nous n'avons pas signé pour recevoir des responsabilités, mais pour éviter la mort éternelle. En image, c'est comme si nous avions simplement signé pour nous embarquer sur un bon bateau, un grand bateau, dont le capitaine s'appellerait Jésus, qui va nous conduire tranquillement, en chantant, jusqu'au bout du fleuve. Nous avons cru qu'en venant à Jésus, nous pouvons enfin nous reposer sur ce grand bateau et descendre tranquillement ce fleuve. Alléluia, alléluia, je ne suis plus responsable. Dieu va me dire quel pain acheter au magasin. Dieu va me dire tout ce que je dois faire. Donc je ne vais plus devoir décider. Et je peux devenir un chrétien sans cerveau. Ne me demande pas ce que j'en pense. Je n'en ai plus besoin. La lumière est allumée, mais personne n'est là. Bien sûr que je suis sarcastique, mais c'est souvent cette impression-là que nous donnons au monde. Aux États-Unis, si vous voulez fonder une très grande église, vous devez simplement vous assurer que vous ne rendrez jamais les gens malheureux en leur disant des vérités qui peuvent faire mal, qui peuvent leur faire mal. Laissez-les sourire. Assurez-leur qu'ils n'ont pas de responsabilité à assumer. Parce que les responsabilités viennent de Satan, pense-t-il. Parce que les responsabilités obligent les gens à grandir. Elles vous empêchent d'être installés confortablement comme vous l'étiez jusqu'alors. Pour un grand nombre de chrétiens charismatiques, vous n'avez rien à perdre en venant à Jésus, sauf votre intelligence et votre cerveau. Oui, je sais que je suis sarcastique. Pourquoi ? Parce que je veux mettre en lumière cet esprit d'irresponsabilité, de fuite et de paresse. Nous rions en entendant cela aujourd'hui, mais Dieu n'en rit pas. C'est une grande souffrance pour lui, mais il sait que ça va changer. Il va nous laisser dans cette même situation jusqu'à ce que nous choisissions vraiment d'en sortir en lui obéissant. L'Éternel Dieu ne va pas venir enlever une communauté désobéissante. Vous devez en prendre conscience et vous occuper de cette question. Dieu ne récompense pas la désobéissance. Dieu ne récompense pas la désobéissance. Jusqu'au moment où nous serons prêts à prendre la responsabilité de gouverner la terre, nous resterons sur la terre. Car c'est ici pour nous le temps de l'apprentissage. Je sais que quelques-uns ne sont pas très heureux d'entendre cela, parce que ce que j'ai dit vous fait l'effet d'une douche. Pour ma part, je suis prêt à vous passer une douche si cela vous éveille. Parce que le gentil petit cortège dans lequel vous vous trouvez n'est pas un cortège de Dieu. Christ nous a appelés à être des gérants, des dirigeants. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons beaucoup de paraboles qui parlent de la manière de gérer selon Dieu. Christ nous a appelés à être de bons intendants, de bons gérants. Je vous invite à lire et relire Luc 19, 12 à 26. Vous connaissez ce texte. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de noble famille se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela ses 10 serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or et leur dit « Faites du commerce avec cet argent jusqu'à ce que je revienne. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent des messagers à sa suite pour dire « Nous ne voulons pas avoir cet homme comme roi. » Il fut nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils en avaient fait. Le premier se présenta et dit « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi lui répondit « C'est bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle dans de petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vint et dit « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi dit à celui-ci « Toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Un autre serviteur vint et dit, « Maître, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée cachée dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je vais te juger seul, selon tes paroles. Tu savais que je suis un homme dur. Que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon retour, j'aurais pu le retirer avec intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui a déjà 10 pièces. » Ils lui dirent, « Maître, il a déjà 10 pièces. » « Je vous l'affirme, répondit-il, à celui qui a, l'on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. » Comment va-t-on d'argent à des villes? Un rapporte 10 pièces, un autre en rapporte 5. Jésus répond à tous les deux, « Bon serviteur, je te nomme gouverneur sur 10 villes et l'autre sur 5 villes. Mais à celui qui n'a pas produit de croissance, il dit, tu es un mauvais serviteur, paresseux, infidèle, car je t'avais donné des responsabilités et tu n'as pas apporté de croissance à cela. Quelle croissance apportons-nous au domaine que Dieu nous a confié? Quelle croissance apportes-tu dans le domaine que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Jésus a dit à ce serviteur infidèle? Il a dit, « Tu savais que je suis un homme qui demande des comptes, mais tu as été un intendant irresponsable avec les biens que je t'avais confiés. Je vais donc te prendre même ce que je t'avais donné pour le donner à quelqu'un qui a bien géré les biens que je lui avais confiés. » Trop souvent, nous rencontrons des personnes qui ne veulent pas écouter cela. Quand nous enseignons cela, les gens ne sourient plus, ils trouvent cela inconfortable. Vous voyez là ce que je déteste dans l'Église. Je veux le dire au pasteur. S'il te plaît, s'il vous plaît, allez-vous enfin avoir le courage de laisser vos gens se sentir misérables à la fin des cultes, afin qu'ils vivent? Lorsque nous prêchons, nous faisons en sorte que les gens soient heureux en sortant. Ceci est faux. Quel désastre! Nous avons peur que les gens se sentent misérables. Nous évitons qu'ils restent assis là, convaincus de péché par l'Esprit Saint. Nous avons cette idée complètement insensée que les chrétiens sont des gens toujours souriants, en particulier lorsqu'ils quittent le lieu du culte. Cependant, je peux vous certifier qu'un grand nombre de personnes quittaient Jésus, qui venait de les enseigner, en étant misérables, en pleurant. Parce que Jésus ne s'intéresse pas à ce que tu ressens. Jésus s'intéresse et veut que tu croisses, que tu progresses en maturité. Nous savons tous que si nous ne souffrons pas, nous ne gagnons rien, que ce soit en sport ou autre. Nous nous souvenons de l'exercice avec les haltères que nous soulevons. Nous souffrons automatiquement si nous voulons acquérir plus de force. Alors pourquoi croyons-nous trop souvent que toute souffrance vient de l'ennemi? Ça, c'est une pensée démoniaque. Sans souffrance, il n'y a pas de croissance. Chaque athlète le sait, chaque artiste le sait, chaque musicien le sait, chaque chef d'entreprise le sait, chaque éducateur le sait. Qui ne le sait pas? Le corps de Christ. Parce que dans le corps de Christ, nous avons seulement pris l'engagement d'être sauvés, guéris, réconfortés, nourris, encouragés, etc., etc. Au lieu de prendre l'engagement de suivre Jésus-Christ pour vivre ce que Christ veut. Ce que Christ veut, c'est que nous grandissions en lui, que nous croissions en lui. Croître en Jésus-Christ sous-entend que nous devons devenir de bons gérants. Ceci signifie aussi que lui grandit en nous, son caractère, sa pensée. Nous sommes de plus en plus un avec lui. Nous lisons dans l'Écriture sainte que nous devons apprendre à nous juger nous-mêmes selon la parole de Dieu. Le fait d'apprendre à juger nous aide à apprendre à gouverner. Ah, Dieu veut nous donner de plus en plus de choses à gouverner. Il veut nous aider à croître. B. Les saints, les enfants de Dieu, doivent apprendre à se juger les uns les autres. Nous lisons et trouvons la même pensée dans Matthieu 18, 1 Pierre 4, 19, 1 Corinthiens 6, 1 à 5. Je ne sais pas combien d'entre vous savent qu'à Corinthe, la communauté chrétienne avait commencé à promulguer des lois. L'Empire romain s'était effondré. Il a fallu 100 ans jusqu'à ce que les tribunaux fonctionnent à nouveau. Plus une nation devient décadente, plus il faut de lois et des hommes de loi. Entre parenthèses, on peut mesurer la décadence d'une nation par le nombre d'hommes de loi qu'elle a en fonction. L'Amérique est le pays où il y a le plus grand nombre d'hommes de loi par rapport au nombre d'habitants. Lorsqu'une culture se détériore, on est comme emprisonné dans de plus en plus de lois. Fermez la parenthèse. Une des raisons pour lesquelles l'Empire romain a pu être christianisé, c'est que des tribunaux de magistrats chrétiens avaient remplacé les tribunaux civils. Vous comprenez bien que le système du monde ne veut pas que vous deveniez conscient, que vous deveniez capable, que vous deveniez responsable de juger le monde. C'est pourtant ce que Dieu veut. C'est à la fin des temps, l'Église va juger le monde et les nations. D. Nous lisons ensemble Romains 8, 17 à 22 qui dit « Nous sommes ses enfants, Donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple, nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J'estime que ce que nous souffrons dans le temps présent ne peut pas se comparer à la gloire que Dieu nous révélera. Le monde entier attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses fils. Car le monde est tombé sous le pouvoir de ce qui ne mène à rien. Non parce qu'il l'a voulu lui-même, mais parce que Dieu l'y a mis. Il y a toutefois une espérance. C'est que le monde lui-même sera libéré un jour du pouvoir destructeur qui le tient en esclavage et qu'il aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore le monde entier gémit et souffre comme une femme qui accouche. Toute la création va être libérée par le moyen du corps de Christ. Paul nous rappelle ici que toute la création soupire après la libération qui doit lui être accordée par les enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 6, que nous ne sommes pas prêts et que, aussi longtemps que nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas le droit de juger le monde jusqu'à ce que nous soyons devenus nous-mêmes obéissants. L'obéissance précède le droit de juger. Je répète, l'obéissance à Dieu précède le droit de juger. Ceci nous amène à Matthieu 7, les versets 1 à 5. Ne jugez pas les autres afin que Dieu ne vous juge pas, car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez, et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil », alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Jésus ne dit pas, « Ne jugez pas les autres », mais il dit, « D'abord, ôte de ton œil la poutre qui s'y trouve, ensuite tu pourras juger quelqu'un d'autre. » Soyons bien attentifs, voici ce que Jésus dit. Juger est une capacité importante, parce que je vous ai appelé à devenir des juges. Je dois donc vous apprendre à juger de manière juste, puisque je vous ai donné la responsabilité de juger les nations. Juger, en prenant une image, c'est comme manier de la nitroglycérine. C'est comme utiliser des matériaux radioactifs. Donc, le fait de juger doit être compris de manière juste et le jugement doit être fait avec beaucoup de doigté. La première chose donc que je vais vous dire en ce qui concerne le jugement, c'est que oui, vous allez devoir juger. Cependant, veillez, car la mesure pour juger les autres doit être exactement la même mesure que tu t'appliques à toi-même, que vous vous appliquez à vous-même. L'esprit avec lequel tu juges l'autre va être l'esprit selon lequel Dieu va te juger. C'est pourquoi Paul nous dit dans Galates 6, 1, « Lorsque vous trouverez un frère qui commet une faute, que ceux qui sont spirituels au milieu de vous aillent le rencontrer, dans l'humilité, en vous souvenant de vos propres fautes et erreurs. » Paul nous dit deux choses ici. Nous ne pouvons pas nous juger les uns les autres. Nous ne pouvons nous juger les uns les autres que par la parole de Dieu. Ton opinion ou la mienne, bonne ou mauvaise, n'est pas le critère pour juger. La seule base pour juger, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Premièrement donc, quel que soit le jugement que nous avons à prononcer les uns par rapport aux autres, il doit être fondé sur la parole de Dieu. Deuxièmement, est-ce que nous vivons nous-mêmes de manière cohérente par rapport à cette parole que nous voulons appliquer à l'autre? Comment peux-tu juger quelqu'un d'autre qui a une paille dans son œil alors que tu as encore une poutre dans le tien? Ça signifie donc, obéis toi-même à ce que tu demandes et alors, seulement, tu peux attendre de l'autre qu'il en fasse autant. Si tu n'obéis pas à la parole écrite, tu es incapable de voir ce qui se passe dans la vie de l'autre clairement. Et quoi que ce soit que tu fais, ne sois pas rempli d'un esprit de jugement négatif. Qui ici connaît la différence entre le fait de juger selon ce que Dieu nous demande et l'esprit de jugement? Dieu nous a appelés à devenir des juges, non de critiquer négativement. Le but d'un jugement selon Dieu, c'est faire en sorte que l'autre soit restauré et qu'il croisse. Le but de l'esprit critique, c'est faire en sorte que l'autre se sente mal et que, si possible, toi tu te sentes mieux, meilleur que lui, supérieur. Dieu ne nous demande pas d'être critique vis-à-vis des autres. Dieu nous demande d'aider les autres. Je peux tout de suite dire quand quelqu'un vient vers moi pour m'apporter une correction, si c'est pour m'aider ou si c'est avec un esprit critique, s'il veut me nuire. Une des raisons pour lesquelles le monde a peur que l'Église commence à juger, c'est qu'il a peur de jugements faits par des personnes qui ne sont pas cohérentes elles-mêmes. Nous sommes appelés à être des juges et des prêtres. L'esprit du prêtre est un esprit qui restaure, qui sert l'autre. Est-ce que vous savez que vos enfants, votre mari, votre femme, savent immédiatement lorsque vous les corrigez si c'est avec un esprit critique ou si c'est avec un esprit de prêtre? Et vous le savez vous-même aussi, entre amis, entre adultes. Vous savez pertinemment si la correction vient d'un ami ou non. Jésus ne nous a encore jamais corrigés avec un esprit critique. Mais il nous a toujours corrigés comme un ami, et ses paroles sont celles d'un ami, même lorsque ce qu'il nous dit nous semble dur à entendre. Il nous corrige. Pourquoi est-ce que nous ne nous corrigeons pas les uns les autres de manière biblique? Il y a principalement deux raisons. A. Nous sommes dans le jeu où je ne te dis rien si toi tu ne me dis rien. Ainsi nous nous tolérons simplement les uns les autres, plus ou moins bien. B. Nous cultivons la crainte des hommes. Qu'est-ce que la crainte des hommes? Voilà comment elle fonctionne. Si je te corrigeais, tu risquerais de me rejeter. Et je suis bien plus effrayée de ton rejet que soucieux de ta croissance. Mais si tu m'aimes, corrige-moi. Un des pires versets bibliques que je connaisse, c'est quand Dieu dit « Éphraïm s'est adonné à l'idolâtrie, laisse-le tout seul. » Quand Dieu dit pour nous « laisse-le tout seul », c'est le pire jugement que Dieu puisse exprimer à notre égard. Au fond, ce que j'entends, ce que nous entendons dans nos relations les uns avec les autres, c'est que tu ne m'aimes pas assez pour prendre du temps pour me corriger, pour que je change, évolue et croisse. Lorsque nous ne vivons pas cette correction selon la parole de Dieu, ce que nous disons au fond, c'est « je ne me soucie pas assez de toi pour t'apporter de l'aide ». Nous ne sommes pas prêts à investir de l'amour, du temps, pour nous entraider les uns les autres. Ceci est un complot immense dans le corps de Christ, parce que nous n'obéissons pas à Dieu qui nous l'ordonne, dans Matthieu 18, 15 à 17. Nous n'apportons pas la correction biblique dans le corps de Christ. Cependant, les fruits ainsi portés par et dans le corps de Christ sont la médisance, la frustration, l'accusation, le manque de confiance, la division, le contrôle, l'irréalité dans la relation les uns avec les autres. Et beaucoup de choses encore. Si vous voulez être le sel de la terre et la lumière dans ce monde, vous devez apprendre à, en pratiquant la maîtrise de vous-même. Vous devez apprendre à diriger, gérer, juger, gouverner dans le corps de Christ. Nous ne serons pas qualifiés pour juger le monde aussi longtemps que nous ne serons pas capables de nous juger nous-mêmes, les uns les autres, selon la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, 6 dit « Exercez le jugement ». Quand votre obéissance sera parfaite. Pierre nous dit la même chose dans 1 Pierre 4, 17. Le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Jésus nous dit d'enlever la poutre qui est dans notre œil. Ainsi seulement serons-nous capables de voir clairement ce qui se passe et pourrons-nous juger de manière juste. Pour terminer, je vais vous rappeler ce que Moïse a fait. Nous lisons ensemble Exode 18, les versets 12 à 26. Il a mis en place un système de gouvernement. Jéthro offrit à Dieu un sacrifice complet et des sacrifices de communion. Alors Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent prendre part au repas sacré, en compagnie du beau-père de Moïse, en présence de l'Éternel. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent de pouvoir se présenter devant lui. Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit « Pourquoi procèdes-tu ainsi? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul, en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir, le moment de se présenter devant toi ? » C'est que ces gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver. Je tranche le cas qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. Son beau-père reprit. Il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille, et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires litigieuses. Tu dois aussi informer les gens des lois et des enseignements de Dieu, leur indiquer la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 ou de 10 hommes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu pourras alléger ta tâche, puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas, et de leur côté, tous ces gens pourront rentrer chez eux réconciliés. Moïse suivit les conseils de son beau-père. Il choisit parmi les Israélites des hommes de valeur et les désigna comme responsables du peuple à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 ou de 10 hommes. Ils devaient siéger chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils soumettaient à Moïse les affaires difficiles, mais réglaient eux-mêmes les causes mineures. Quel est le principe ici ? Plus nous mûrissons, plus nous sommes capables de nous occuper de cas difficiles. Car il faut des juges vraiment mûrs pour pouvoir juger de cas difficiles. Dans le corps de Christ, les anciens sont censés être les dirigeants les plus mûrs. Entre parenthèses, si je parlais maintenant à un groupe de pasteurs, je ne passerais pas mon temps à leur dire qui est appelé ou non à devenir ancien. On ne destine pas un homme à devenir ancien parce qu'il enseigne bien. On ne destine pas un homme à devenir ancien parce qu'il a un contact sympa ou parce qu'il parle bien. On appelle quelqu'un à devenir ancien parce qu'il est un bon juge. Ceci est la responsabilité de l'ancien. Car ces juges-là sont appelés à juger des cas les plus difficiles. Eux ont le courage de trancher dans des cas difficiles. Ils ne vont pas se laisser piéger par la crainte des hommes. Si vous êtes piégé dans la crainte des hommes, vous ne pouvez plus vous juger de manière juste, ni juger les autres de manière juste. Mon principe du vendredi est le suivant. Je peux apprendre à régner, gérer, juger, gouverner, diriger, en servant Dieu. Mon engagement est le suivant. Père, je m'engage à marcher dans la crainte de ton nom. Je m'engage à apprendre à juger de manière juste, selon ta parole et ton Esprit Saint. Je me souviens que les saints sont appelés à juger le monde, et je me souviens aussi que le corps de Christ n'est pas appelé à aller où que ce soit, jusqu'à ce que nous ayons grandi, que nous soyons devenus mûrs, que nous soyons capables de juger le monde. Pour finir, j'aimerais encore dire que la question importante n'est pas de savoir quand Jésus va revenir, mais pourquoi Jésus va-t-il revenir? La réponse, je peux vous la donner maintenant. La raison pour laquelle Jésus va revenir est la suivante. Jésus va revenir lorsque la communauté des croyants sera prête à entrer dans la prochaine étape. Jésus ne va pas revenir jusqu'à ce que nous soyons prêts à entrer dans un nouveau niveau avec lui. Pour pouvoir entrer dans cette nouvelle étape, nous devons absolument apprendre la maîtrise de nous-mêmes. Nous devons apprendre à gérer, gouverner, diriger, juger. Nous devons devenir de très bons intendants dans les domaines que Dieu nous a confiés. Frères et sœurs, il faut absolument que nous soyons libérés de la crainte des hommes. Nous devons avoir le courage d'être confrontés nous-mêmes à la parole de Dieu. Prenons-la comme un miroir pour nous et pour nos communautés. Nous devons renoncer à l'esprit de jugement et de critique. Nous devons apprendre à apporter la correction dans l'amour. Lorsque nous vivons ainsi dans le corps de Christ croît. Ainsi, il devient lumière dans le monde. De cette manière, nous commençons réellement à faire des nations des disciples, parce que nous apportons la correction de Dieu, selon Dieu, dans le monde. Je demande à Dieu qu'il vous rappelle cela tous les vendredis. Vous êtes appelés à être des intendants, des gérants, juges, dirigeants. Prenez cette responsabilité au sérieux. Amen.